Alors nous arrivons au terme de ce parcours assez rapide, assez superficiel de ce livre de Josué qui finalement est un microcosme du projet de Dieu pour le salut. Après avoir donc abordé ce thème de entrer dans l'héritage, hier posséder l'héritage, nous voulons ce matin réfléchir sur cet autre thème, demeurer dans l'héritage. J'aimerais lire un passage que je vais commenter plutôt vers la fin, mais que j'aimerais lire maintenant au chapitre 24. Dans ces deux derniers chapitres de ce livre, Josué, en fin de vie, réunit tout le monde. D'abord au chapitre 23, il réunit les chefs, les anciens, les responsables, et il leur transmet quelques recommandations, quelques instructions. Et puis au chapitre 24, c'est tout le peuple qui est réuni. Et c'est maintenant l'Éternel qui s'adresse au peuple. Et c'est ce discours de l'Éternel que j'aimerais donc lire maintenant, chapitre 24, à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé Égypte parce que j'ai fait au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des joncs avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Alors il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie et ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous et je vous ai délivré de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain. Et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Yébousiens. Je les ai livrés entre vos mains, et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, ces deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Un rappel de tout ce que l'Éternel avait fait pour Israël, depuis l'appel d'Abraham en Mésopotamie. J'ai. Tout est l'œuvre de Dieu. Tout est l'œuvre de Dieu. Hier, nous avons donc juste envisagé cette possibilité que toute conquête est finalement composée d'une partie occupation, où on occupe le territoire, et d'une partie de consolidation, où l'on nettoie les poches de résistance et où l'on élimine progressivement l'ennemi. Et le chapitre 6 à 12 de Josué, c'est l'occupation, où Josué mène Israël dans ses 4 campagnes militaires pendant 7 ans pour occuper le pays. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, et même avec le chapitre 22, c'est la partie consolidation, où Josué envoie les tribus sur leur territoire respectif. Et leurs territoires sont délimités. Et chaque tribu est envoyée sur son territoire pour consolider, occuper toutes les villes qui ne sont pas encore vaincues, nettoyer les poches de résistance et ainsi s'établir dans le pays. Et les 2 tribus et demie qui ont traversé le Jourdain avec Josué et les autres tribus, c'est-à-dire les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, maintenant sont relâchés après 7 ans de combat pour retourner chez eux, de l'autre côté du Jourdain, pour rejoindre leur famille et leur terre. Une étape donc de consolidation. Mais nous constatons que cette étape, dans l'ensemble, est un échec. D'ailleurs, Josué lui-même, à un moment donné, reproche au peuple de négliger cette étape. Il leur dit, je vous lis, Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Et on constate que le temps passe et que le peuple s'habitue à une forme de cohabitation. Il commence à rationaliser. L'ennemi n'est pas si mauvais que ça. D'ailleurs, nous pourrions peut-être nous en servir. Pourquoi, au lieu de les éliminer et de nettoyer toutes ces poches de résistance, pourquoi ne pas s'en servir comme esclaves? Pourquoi faire le boulot si eux, ils peuvent le faire à notre place? Et ils commencent donc à rationaliser. Et il y a une forme de paix, paix, entre guillemets, qui s'installe dans le pays. Et finalement, on constate que le peuple perd en temps de paix ce qu'il a gagné en temps de guerre. Et il y a un principe là. Le peuple perd en temps de paix ce qu'il a gagné en temps de guerre. Dans le livre de Josué, il y a peu finalement de détails par rapport aux raisons pour ces échecs. Mais dans le livre des Juges qui suit de très près, le compilateur de ce livre, il n'emprunte pas des détours. Il va droit au but. Et sauf quelques avancées par la tribu de Juda, pratiquement toutes les autres tribus cohabitent avec l'ennemi qu'ils devaient éliminer. Et au chapitre 1 du chapitre 1 des Juges, verset 21, les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Jébusiens. Verset 27, Manassé ne déposséda pas. 29, Éphraïm ne déposséda pas. 30, Zabulon ne déposséda pas. 31, Aser ne déposséda pas. 33, Nephtali ne déposséda pas. Et verset 34, les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Voici la conclusion, finalement, de cette étape de consolidation que nous donne le compilateur du livre des Juges. En dehors de Juda qui a fait quelques avancées, les autres tribus ont finalement accepté la cohabitation plus ou moins paisible. Demeurer dans l'héritage. Nous arrivons donc à la fin de ce livre de Josué, à la fin de la vie de Josué. Mais peut-être avant de d'aborder ce thème de demeurer, parce que c'est étroitement lié, il faudrait peut-être réfléchir aux raisons de cet échec. Comment se fait-il que cette étape de la consolidation était un tel débâcle, une telle catastrophe? Est-ce qu'il faut, par fatalisme, tout simplement, se résigner au fait que, bon, on ne peut pas remporter toutes les victoires? Ou est-ce que l'Écriture nous donne quelques indices pour expliquer, finalement, cet échec? J'ai deux vignettes ce matin, mais les deux vignettes sont un peu plus longues. D'abord, l'analyse de cet échec. L'analyse de cet échec. Pourquoi l'étape de la consolidation n'a pas marché? Je vous propose trois pistes pour votre réflexion. Et la toute première, finalement, ouvre la porte pour les deux autres. Mais la première piste, c'est que le compromis de la première génération a finalement ouvert la porte pour les dérapages qui s'en suivent. Au chapitre 23 de Josué, nous lisons au verset 3, « Et vous, cette génération de Josué, et vous, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. » Le constat est clair. Vous, première génération, vous n'avez aucune excuse. Vous avez vu. Vous avez été les témoins oculaires de toutes les interventions de Dieu. Vous ne pouvez pas nier ce que vous avez observé. Et pourtant, un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 12, si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Et puis le chapitre 24, verset 14, là où j'ai arrêté la lecture, mais la deuxième partie de ce verset, « Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Et puis, de même, au verset 23 du chapitre 24, « Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le compromis de cette génération contemporaine de Josué a fait en sorte qu'il y ait eu quantité de dérapages par la suite et explique finalement la triste litanie de défaites que nous constatons dans le livre des Juges, où finalement, juge après juge, c'est dérapage après dérapage, jusqu'au moment où nous arrivons à la fin du livre des Juges, et c'est même la prêtrise qui est coupable des plus grands dérapages par cupidité et par immoralité et manque de courage moral. Non, ici, vous avez vu, mais si vous vous détournez, mais le constat est clair, ôtez du milieu de vous ces dieux étrangers, conservez vos pères en Mésopotamie, que vous avez servi en Égypte, que les Amoréens servent en Mésopotamie les Baals, en Égypte le dieu soleil Ra, les Amoréens le dieu Moloch qui sacrifiait leurs enfants pour apaiser la colère de leur divinité. Ôtez-les, ils servaient ces divinités. Ôtez-les et ne vous mêlez pas à ces peuples. Ne vous mariez pas en dehors du peuple de Dieu. Juges, chapitre 3, nous lisons ceci. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent à leur fils leur propre fille et rendirent un culte à leur Dieu. Le compromis par rapport à l'ordre de l'Éternel de cette première génération explique en grande partie l'échec. Cette première génération avait vu les grandes œuvres de l'Éternel, mais malgré ce fait, cette première génération a désobéi en ne pas éliminant, même progressivement, en ne pas éliminant l'ennemi, en adorant leur Dieu, et finalement en se mariant entre tribus et entre ethnies. Et c'est ce qui explique, à mon sens, les deux autres raisons pour cet échec. Et là, je me tourne vers le livre des Juges, chapitre 2, verset 10. Toute cette génération, Josué, les anciens, et la génération qui avait vu, toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Le verset 7 de ce même chapitre nous dit que, après la mort de Josué et les anciens, toute cette génération qui avait vu, il s'est levé une autre génération qui n'a pas vu. Mais ce que cette autre génération a vu, c'était le compromis de la première génération. Cela revient à ce que j'ai dit le premier soir, le devoir de transmission que nous avons, de transmettre fidèlement et finalement de par le contenu théorique et la vie que nous modelons, de transmettre la vérité sur Dieu. Et manifestement, cette première génération ne l'a pas transmis. Quand une seconde génération, je pense à mon propre parcours en tant qu'enfant de chrétien, et je suis profondément reconnaissant pour l'héritage que j'ai reçu, mais lorsque j'étais adolescent, 16, 17, 18 ans, je commençais à me poser de sérieuses questions, non par rapport à la vérité, non par rapport à l'Écriture, non par rapport à l'existence de Dieu, mais parce que dans la génération qui me précédait et que j'observais, je me disais, mais je ne vois pas l'Évangile dans l'ensemble, c'est une généralisation, hein, je suis d'accord, mais je ne vois pas l'efficacité de l'Évangile. Je vois finalement des paroles justes, mais je ne vois pas des actions correspondantes. Et je me posais la question à un moment donné, est-ce que l'Évangile marche? Est-ce que ça fonctionne? Je regardais toutes ces personnes et puis elles prêchaient la vérité comme si elles la vivaient. Mais il y avait une incohérence. Et cela me troublait profondément à tel point que je me disais, ça vaut pas la peine. Eux, ils ne le vivent pas, mais ils font semblant de vivre. Comment et quel espoir y a-t-il pour moi? Et j'étais au point, finalement, de baisser les bras lorsqu'à un moment donné, dans la grâce de Dieu, je suis tombé dans une rencontre où Georges Verwer était l'orateur. Et lors de cette rencontre, il a prêché un évangile radical, terre à terre, concret et qui finalement faisait vibrer en moi tout ce que je croyais et tout ce que je voulais, mais que pour l'instant, je n'avais pas encore réussi. Et ça a changé toute ma vie. Cette seule rencontre, je suis sorti de cette rencontre en me posant la question, est-ce que tu es vraiment chrétien? Je l'étais, mais j'étais finalement en tension, partagé, entre finalement ce que je croyais et finalement l'inefficacité dans ma vie et l'inefficacité de la génération qui me précédait. Le compromis dans la première génération a conduit à une absence de connaissance de l'Éternel dans la deuxième génération. Ah si, ils connaissaient la vérité au sujet de la vérité. Ils continuaient à pratiquer les rites et les cérémonies. Ils étaient là tous les dimanches matins, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, et ainsi de suite. Ils étaient en train de louer tue-tête, la musique était formidable. Mais ils vivaient avec l'illusion de salut et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la troisième raison, qui est aussi donnée dans ce livre des juges, c'est au chapitre 3, au début du chapitre, « Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. » Une absence d'une connaissance dynamique, vitale de l'Éternel ne produit pas des combattants. Et nous constatons finalement un peuple qui ne s'engage plus dans le combat. Un peuple qui s'habitue aux droits acquis, qui vit des bénéfices de l'héritage, mais en vit dans sa substance. L'échec de cette étape de la consolidation relève finalement de l'incohérence entre ce que cette première génération croyait et cette première génération pratiquait, le compromis. Et lorsque nous sommes confrontés au compromis, nous nous posons de sérieuses questions concernant l'efficacité de l'Évangile. Or, Paul a dit très clairement que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le salut n'est pas uniquement la conversion. Le salut, c'est toute la vie chrétienne, depuis la conversion jusqu'à la transformation et jusqu'à la consommation de toutes choses. Ce projet, ce processus de salut, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Je suis sauvé, je serai sauvé. Je suis racheté. En lui, j'ai la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a scellé pour le jour de la rédemption. Il y a le déjà et le pas encore. Le salut est un processus. Et pour que ce salut soit efficace, il faut que de génération en génération, nous vivions de manière cohérente notre vie chrétienne, que nous puissions transmettre aux générations futures la réalité et la radicalité de l'Évangile. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas un sans faute, mais même dans nos échecs et nos défaites, nous nous relevons, nous remarchons et nous transmettons à la prochaine génération le chemin de la repentance, de la confession et du renouvellement et du ressourcement par le Saint-Esprit. L'analyse de l'échec. Ce qui revient à dire que pour vous, qui a envisagé votre avenir, mariage, famille, engagement professionnel, engagement dans votre église, votre témoignage, votre vécu, votre vie de modèle compte. Les personnes vous observent, que vous le souhaitiez ou pas, ils vous regardent, ils vous observent, et votre modèle va laisser des traces. Deuxième vignette donc, c'est un double titre. Comment éviter l'échec? Autrement dit, comment demeurer dans l'héritage. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Josué en fin de vie, il le dit lui-même au chapitre 23, verset 14, « Voici que je m'en vais aujourd'hui, où va tout ce qui est terrestre ?» Il se rend compte que maintenant c'est tout à fait la fin de son parcours. Il a 110 ans. Depuis jeune homme, il a vécu une vie extraordinaire. Aux côtés de Moïse, Moïse l'a choisi très rapidement. Après la sortie d'Égypte, il est devenu son jeune collaborateur qui est devenu par la suite son successeur. La première fois que nous rencontrons Josué, jeune homme, c'est lorsqu'il s'engage dans cette bataille contre les Amalécites. Et là, Josué apprend quelque chose de fantastique. C'est pas moi, en tant que commandant, qui va remporter cette victoire, c'est Dieu. Parce qu'il y avait Moïse là, avec Aaron et Hur, qui lui tenaient les mains levées au ciel. Et aussi longtemps que ses mains étaient levées au ciel, la victoire était assurée. Josué a appris. Il a accompagné Moïse sur le mont Sinaï et il a attendu pendant 40 jours sur le mont Sinaï pendant que Moïse montait plus haut pour avoir les tablettes de la loi. Et lorsqu'il est descendu, il a vu l'idolâtrie dans le camp avec le veau d'or et il s'est rendu compte de la différence entre la sainteté et la pourriture. Il était celui qui faisait partie de ces 12 espions qui allaient finalement, sur le territoire de Canaan, et à l'encontre de tout le monde, sans conformisme du tout, il a dit, nous pouvons remporter la victoire. Ce n'est pas étonnant si par la suite il devient le successeur de Moïse et conduit le peuple dans toutes ses victoires. Mais maintenant, 110 ans, il est à la fin de sa vie et il transmet comment demeurer dans l'héritage. D'abord, ces recommandations au chef. Je pourrais finalement cumuler les deux chapitres, mais je vais quand même, pour ce matin, juste séparer ces deux séries de recommandations, les parcourir très rapidement. Recommandations d'abord au chef. Il y en a trois, finalement, dans ce chapitre 23, en tout cas, au moins trois. Il y a certainement plus. Mais une fois de plus, Josué, là, au verset 3, rappelle l'importance que Dieu doit avoir la première place, c'est lui qui combat. Depuis le début du livre de Josué, dans toutes les étapes que nous avons parcourues, que ce soit l'arche qui précède, que ce soit cette rencontre avec Dieu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et encore ici, à chaque étape, c'est un rappel, nous suivons Dieu. C'est lui qui est aux commandes, au contrôle. Et dans ce chapitre 23, 13 fois, nous rencontrons cette phrase, « L'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu. » C'est comme un rappel, finalement, du non négociable de la vie chrétienne. Un commandement de la part de Dieu. C'est l'Éternel qui conduit, et le verset 5, c'est l'Éternel qui continuera. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous, les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Amen. Raté. Finalement, raté. À partir du moment où nous oublions que Dieu, Christ, est à la tête de son peuple, le chef de l'Église. À partir du moment où nous commençons à prendre les manettes entre nos mains, nous sommes sur une fausse route. Et ce livre nous rappelle à maintes reprises la primauté de la place de Dieu. Ensuite, deuxièmement, et c'est très dommage, dans la Bible que j'ai ici au verset 6, il manque un mot, le mot « donc ». C'est pourquoi, ou ainsi, ce sont finalement, les expressions extrêmement utiles dans l'Écriture. Donc, appliquez-vous, puisque l'Éternel est le chef, donc, appliquez-vous avec force à observer ou à obéir et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. L'obéissance, L'obéissance, hein? Un mot qui n'est pas forcément toujours très populaire, mais j'aimerais quand même petit à petit le définir. Mais cette obéissance est explicitée dans ce chapitre 23. En tout premier lieu, évidemment, garder le livre de la loi, obéir à cette loi de Dieu. Mais c'est encore davantage explicité, fuyez toute forme d'idolâtrie. Bien sûr, nous n'avons ni les Baals, ni les rats, ni les Molechs et autres aujourd'hui. Mais il y a d'autres idoles qui ne sont pas forcément faites en pierre ou en bois ou en métal. Nous n'avons pas le temps de parcourir tout ce qui peut être l'idolâtrie moderne, mais je vous recommande vivement un livre de Tim Keller, Les idoles du cœur. Parce qu'au 20e ou 21e siècle, nous sommes plus sophistiqués dans notre idolâtrie. Cela peut être facilement la carrière, ou une belle situation, ou notre réputation personnelle. Ça peut être nos loisirs, et ce n'est pas faux. Ça peut être la famille. Toutes ces choses sont bonnes, ce sont les cadeaux, les dons de Dieu, mais ces choses-là peuvent se substituer à Dieu et prendre la place de Dieu, et à partir de ce moment-là, c'est une idolâtrie. Tout ce qui déplace Dieu à la périphérie de nos préoccupations est une idolâtrie. Et donc, l'écrivain, le compilateur de ce livre nous dit « Obéissez à Dieu », ce qui veut dire « Fuyez toute forme d'idolâtrie ». Rassurez-vous constamment, et c'est un examen quotidien, que Dieu est à la première place dans notre vie. Malgré les échecs, les défaites, nous revenons, nous nous relevons, et nous mettons à nouveau notre vie et notre maison en ordre. Et puis il continue par rapport à tout ce qui est mariage. Ne vous mariez pas, dit-il, en dehors du peuple de Dieu, à partir du verset 12. Le mariage en dehors du peuple de Dieu finalement conduit à des souffrances, à des catastrophes. Attention, je ne suis pas en train de dire que de se marier rien qu'avec n'importe quel chrétien ou chrétienne, que ça va réussir. Pas du tout. Il y a d'autres critères, mais c'est pas le sujet de ce matin. Obéir. Parfois, on me pose la question, mais quelle est la différence entre le légalisme? Parce que l'obéissance, ça a quelques ressemblances, apparemment, au légalisme. C'est quoi le légalisme? Le légalisme, c'est lorsqu'on nous impose depuis l'extérieur des interdits. Paul en parle dans les Colossiens. Ne touche pas, ne goûte pas, n'y va pas. Hein? Voilà, les encouragements pour la vie chrétienne. Moi, je me suis converti à 14 ans, je suis allé voir les anciens de mon assemblée, et je leur ai posé la question, enfin, je leur ai informé que je m'étais converti, et ils m'ont dit, Mike, maintenant tu es chrétien, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas aller au cinéma, et tu ne dois pas danser. À 14 ans, venant d'une famille chrétienne, surtout la mienne, je n'avais jamais fait aucune de ces choses. Mais c'est un encouragement fantastique, hein? Vraiment, ça m'a boosté pour toute ma vie chrétienne. On m'a absolument pas parlé ni de la prière, ni de la lecture de la parole, ni du témoignage. Fume pas, danse pas et va pas au cinéma. Et pourquoi est-ce qu'on obéit à ces lois qui nous sont imposées depuis l'extérieur? Pour deux raisons. Soit pour notre propre satisfaction, un genre d'auto-justification, ou soit pour plaire aux hommes, ceux qui nous imposent ces interdits. Le légalisme, c'est une obéissance à des interdits qui viennent de l'extérieur et dont l'objectif, finalement, c'est une forme d'auto-justification ou plaire à ceux qui nous imposent ces interdits. Et cela est un faux évangile. L'obéissance. L'obéissance, c'est parce que nous avons rencontré le Dieu vivant et parce que sa loi maintenant est une affaire de cœur. Et cela revient au troisième point que je mentionne au verset 11. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel, votre Dieu. L'obéissance et l'amour pour Dieu sont deux faces d'une même pièce. J'obéis parce que j'aime. J'obéis parce que j'aime. Et l'obéissance dans la vie chrétienne n'est pas un joug pesant. Son joug est léger. Et parce que je l'aime, je veux lui faire plaisir. Et donc j'obéis. C'est tout différent. Donc, au chef, au responsable, Josué dit, n'oubliez jamais, l'arche, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'ai combattu pour vous et je continuerai à combattre pour vous, n'oubliez jamais la place de Dieu dans notre vie. Et donc, obéissez. Donc, obéissez. En fuyant toute forme d'idolâtrie et en veillant sur tous nos choix importants de la vie, y compris le mariage, parce que c'est mentionné. Veillez là-dessus, mais obéissez par amour pour plaire à l'Éternel. Et pour terminer, dans le chapitre 24, où finalement c'est Dieu qui s'adresse à l'ensemble du peuple. Et là, j'aimerais juste faire deux ou trois remarques. Et la toute première, c'est l'importance du souvenir. Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 15, il leur rappelle finalement, en quelques versets, l'histoire du salut, en leur disant toujours, selon les Écritures, selon les Écritures, selon les Écritures. Nous avons besoin à être constamment alimentés, nourris par de tels passages qui nous rappellent tout ce que Dieu a fait. Et au moment du départ de Josué, il y a finalement un survol succinct de l'histoire du salut depuis Abraham jusqu'à Josué. Et je pense que vous avez remarqué dans la lecture que j'ai accentué à chaque fois lorsqu'il était question de « j'ai ». Il est à l'origine de notre salut. Il est l'initiateur. Et ce besoin de constamment nous souvenir de tout ce que Dieu a fait dans l'histoire de la rédemption, mais ce texte nous le rappel. À nouveau, il y a un appel pour fuir l'idolâtrie. Mais ce qui est tragique dans cet appel, c'est que manifestement, à l'époque, lorsque Moïse lui-même est sur le point de mourir, et lorsque le peuple, finalement, va se disperser, il y a le syncrétisme. Le peuple, par arrogance, d'une certaine manière, verset 16 dit, le peuple répondait en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Mais finalement, l'Éternel était obligé de le dire juste auparavant, « Mais ôtez les dieux qui conservaient vos pères. Il y a, au sein du peuple, ces dieux de Mésopotamie, ces dieux égyptiens, ces dieux amoréens. » Et puis, à nouveau, il répète, là, au verset 3, 23, « Ôtez donc !» Ce n'est pas théorique. Et le peuple semble inconscient du problème. On s'est tellement habitué au syncrétisme, on s'est tellement habitué à l'idolâtrie, qu'on ne se rend même plus compte. Et donc, on participe à toutes les rencontres pour adorer, raveille, mais ça ne pose aucun problème d'avoir ces autres idoles dans le salon. Et je dois dire, après tant d'années maintenant, où tous les jours je me lève, je dis « Seigneur, je veux te suivre », après tant d'années, je me rends compte que les idoles nous collent à la peau. Je ne règle pas dans ma vie le problème de l'idolâtrie une fois pour tout. Ce n'est pas en levant la main, signant une carte ou en m'avançant dans une rencontre que j'ai réglé le problème de l'idolâtrie. C'est un choix. C'est un choix quotidien. Nous sommes actuellement en Haute-Savoie sur le point de vendre notre maison et nous sommes en train de nous préparer pour une nouvelle étape un peu plus simple. Nous réduisons le nombre de pièces et ainsi de suite. Mais ça n'empêche qu'avec mon épouse, en réfléchissant à cette prochaine étape de vie, j'ai 72 ans pratiquement, à cette prochaine étape de vie, nous sommes pratiquement en train de préparer cette prochaine étape comme si c'était le paradis sur terre. Et c'est comme si nous étions éternels. On réfléchit à la cuisine, on réfléchit aux meubles, on réfléchit au jardin, et on passe un temps fou. Alors, ce sont les cadeaux de Dieu, ce sont les dons qu'il nous accorde. Mais très souvent, ces dons qu'il nous accorde peuvent très facilement déplacer Dieu à la périphérie de nos préoccupations. Moi, je milite tous les jours avec une forme d'idolâtrie ou une autre. Et finalement, Josué recommande au peuple, à partir du verset 14, et il le fait 16 fois dans le restant du texte, « Servez, servez l'Éternel ». Et vous connaissez donc cette pyrogravure extraordinaire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous l'avez certainement vu, probablement chez vos grands-parents. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le service, c'est un choix. Encore une fois, c'est un choix. Et pas un choix que l'on fait en se levant dans une rencontre. C'est un choix quotidiennement renouvelé. Si je dis quotidiennement, ça ne veut pas dire que consciemment, chaque matin, je dis, oh, Jésus Seigneur, je vais te suivre. Mais c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Et donc, Josué, lui, a fait le bon choix. Et il encourage le peuple à faire autant. Demeurer dans l'héritage, c'est accorder à Dieu la place qui lui revient. C'est obéir par amour pour lui faire plaisir, fuir l'idolâtrie qui nous colle à la peau, veiller à tous les choix importants de notre vie et le servir. Je conclus. J'ai dit avant le premier soir que dans la théologie biblique, il y a la typologie. David est un type de Jésus. Et tout ce livre de Josué qui veut dire Yahvé sauve, est imprégné de typologie de salut. Entrer dans l'héritage, cela relève de l'initiative de Dieu, l'arche. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. L'initiative de Dieu, cela relève de la Pâque. Délivrance de l'Égypte, mais pour nous, Christ est notre Pâque, délivrance de notre esclavage. Cela relève du signe de l'Alliance, circoncision à l'époque, baptême le plus souvent aujourd'hui. Cela relève d'un mémorial interactif. La Sainte Cène, où nous nous souvenons. Mais ce souvenir comporte un devoir de transmission. Entrer dans l'héritage. Posséder l'héritage, cela relève de se soumettre au commandement de Dieu. Ça relève du principe de occupation, consolidation. Dès notre conversion, le Saint-Esprit demeure en nous. Mais ensuite, il y a tout ce processus de consolidation où il doit nettoyer les poches de résistance et petit à petit nous transformer et occuper davantage le terrain de notre vie. C'est occupation, consolidation. Se relève de fuir le péché, de haïr le péché et de discerner et de déjouer toutes les ruses et pièges de l'ennemi. Nous avons un ennemi qui est le père des menteurs et constamment il est en train de nous séduire par ses ruses et ses pièges. Et là, nous avons besoin les uns des autres pour les discerner et pour les déjouer. Cela relève de reconnaître que nos défaites ne sont pas définitives, mais que nous avons la possibilité de nous repentir, de confesser, de nous relever, de remettre en marche. Mais une réalité qu'on ne peut pas contourner, devant le péché, devant l'échec, devant la défaite, il y a souvent des conséquences avec lesquelles il faut vivre par la suite. Posséder l'héritage. Et pour demeurer dans l'héritage, cela relève toujours d'une soumission au Dieu souverain. Arche, chef de l'armée de l'Éternel, l'Éternel, votre Dieu, c'est un constant. Et demeurer dans l'héritage, ça relève d'une soumission au Dieu souverain. Ça relève de l'obéissance motivée par l'amour. Ça relève d'un choix de fuir l'idolâtrie et de choisir le service. Le livre de Josué est un microcosme du projet de Dieu du salut. Paul, il arrive à le dire en un seul verset ce que nous avons parcouru sur 24 chapitres. Paul dit de la manière suivante: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, entrez dans l'héritage, va la poursuivre, posséder l'héritage, et va l'achever pour le jour de Jésus-Christ. Demeurez dans l'héritage. Nous avons un héritage extraordinaire. Et ce côté-ci de la croix, nous avons un éclairage supplémentaire. Et cet éclairage supplémentaire est contenu dans ce verset de Paul. Nous pouvons avoir une pleine confiance que celui qui a commencé va poursuivre et va achever lors de la consommation de toutes choses.